Chapitre 60. Autour du lit de Carmélite et près du lit de Colomban. À 9 heures du matin, la voiture qui contenait M. Jacqual, Salvatore et Jean-Robert s'arrêta à la porte de la maison où s'étaient passés les terribles événements que nous venons de raconter. 3 autres voitures stationnaient déjà à cette porte. Un fiacre, une petite calèche bourgeoise et une grande voiture armoriée. « Elles sont là toutes trois, » murmura Salvatore. M. Jacqual échangea tout bas quelques paroles avec un homme habillé de noir qui se tenait à la porte. L'homme noir monta sur un cheval attaché devant un cabaret à quelques pas de là et partit au galop. « Je m'occupe de votre maître d'école, » dit M. Jacqual à Salvatore et à Jean-Robert. Salvatore répondit par un muet remerciement de tête et entra dans l'allée. À peine eut-il fait 3 pas qu'un chien couché sur le palier du premier étage bondit par les degrés et vint poser ses 2 pattes sur ses épaules. « Oui, mon chien, oui, Roland, oui, elle est là, je le sais. Voyons, montre-nous le chemin, Roland. » Le chien monta le premier et s'arrêta devant la porte de la chambre de Carmélite. M. Jacqual, en homme qui a le droit de pénétrer partout, ouvrit cette porte et entra, suivi de Salvatore et de Jean-Robert. Alors un tableau d'une profonde poésie s'offrit au regard de l'homme de police et des 2 jeunes gens. Qu'on se figure en effet autour du lit où Carmélite, encore engourdie mais hors de danger, était étendue, 3 jeunes filles agenouillées et priant. Ces 3 jeunes filles, égales en âge, égales en beauté, et vêtues toutes 3 comme Carmélite était vêtue elle-même, c'est-à-dire d'un costume particulier qui trouve naturellement ici sa description. Ce costume était celui des pensionnaires de Saint-Denis. Il se composait d'une robe de fine serge noire, à grande jupe étoffée, à corsage montant, et sur lequel était rabattu un col blanc plissé. Les manches des robes étaient amples et tombantes, comme les manches des religieuses. Un grand ruban de laine tournant autour des 2 épaules venait ceindre la taille en formant sur le dos un angle dont la base était à la ceinture, et le sommet aux épaules. Cette ceinture, large comme la main, était tissée de laine de 6 couleurs différentes, verte, violette, aurore, bleue, blanche et nacara. C'était enfin un costume semi-mondain, semi-religieux. Une femme du monde n'eût point mis dans son ajustement une si rigoureuse sévérité, une religieuse n'eût point porté cette ceinture éclatante, reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tel est, avons-nous dit, le costume des pensionnaires de Saint-Denis quand elles entrent dans ce qu'on appelle la classe de perfectionnement. Jean-Robert, du premier coup, reconnut Fragola et il regarda Salvatore pour la lui désigner, mais celui-ci l'avait déjà vue et même avait déjà été vu par elle. Il posa son doigt sur sa bouche afin de recommander le silence à Jean-Robert. Tout à coup, les 2 amis reculèrent épouvantés. Il leur avait semblé que le corps faisait un mouvement, et ils ignoraient que Carmélite eût été sauvée par Ludovic. « Ah !» dit M. Jacqual, avec cette indifférence des gens habitués à de pareils spectacles. « Elle n'est donc pas morte ?»« Non, monsieur, » répondit la plus grande des jeunes filles, celle qui, par la taille et même par la beauté, semblait commander aux 2 autres. Jean-Robert se retourna, le timbre de cette voix ne lui était point inconnu. Il reconnut mademoiselle Regina de Lamotoudan. « Mais le jeune homme ?» demanda M. Jacqual. « On espère encore, » répondit Regina. « Il y a près de lui un jeune médecin, et tant qu'il ne l'aura point abandonné, rien ne sera tout à fait perdu. » En ce moment, la porte s'ouvrit, et au grand étonnement de Jean-Robert et de Salvatore, Ludovic entra. Il avait jeté de côté toute sa défroque de carnaval, ayant envoyé un homme à cheval prendre chez lui un habillement complet. « Eh bien, » dirent toutes les voix. Ludovic secoua la tête. « Le religieux est près de lui, » dit-il, « quant à moi, je n'ai plus rien à y faire. » Puis, comme on lui montrait Carmélite, toujours muette et dont les yeux, lorsqu'il s'entr'ouvrait, semblaient ne pas voir, « Oh, pauvre enfant, » dit Ludovic, « laissez-la dans son ignorance, elle ne reviendra que trop tôt à la vie. » « Messieurs, » dit M. Jacqual à Salvatore et à Jean-Robert, « nous ne sommes ici que par accident. Je crois donc qu'il serait bon de laisser la malade avec ses amis et le médecin, de faire au plus vite le procès-verbal et de partir pour Versailles. » Jean-Robert et Salvatore s'inclinèrent en signe d'adhésion. Fragola se leva et vint dire quelques mots à l'oreille de Salvatore qui répondit par un mouvement de tête affirmatif. Après quoi le commissionnaire et le poète sortirent comme ils étaient entrés, précédé par M. Jacqual. Tout était préparé dans la pièce du bas pour écrire le récit de l'événement. La porte du corridor était ouverte et, à travers les vitres des fenêtres du pavillon, on voyait brûler les cierges. « Voulez-vous venir jeter quelques gouttes d'eau bénite et faire une prière sur ce pauvre corps ?» dit Salvatore au poète. Jean-Robert fit un signe de consentement, et tandis que M. Jacqual, pour se donner des idées, se bourrait le nez de tabac, tous deux s'acheminèrent vers le pavillon. Colomban était couché sur son lit. Le drap, rejeté par-dessus sa tête, accusait à travers ses plis cette forme rigide que la main de la mort donne au cadavre. Un beau moine dominicain, assis au chevet du lit, son livre ouvert sur les genoux mais la tête renversée en arrière, et laissant tomber de ses yeux des larmes silencieuses, disait la prière des morts. En voyant les deux jeunes gens qui entraient la tête nue et basse, le moine se leva. Son regard se porta tour à tour sur Jean-Robert et sur Salvatore, mais il était évident que les deux visages lui étaient inconnus. L'impression qu'éprouva Salvatore à la vue du moine fut toute différente. En apercevant Dominique, le jeune homme s'arrêta et laissa presque échapper un cri de joie, tempéré cependant par le respect. À ce cri, le moine se retourna, mais le nouveau regard jeté par lui sur Salvatore ne lui apprit rien de plus que le premier, et, sauf ce mouvement naturel d'étonnement qui n'eut que la durée d'un éclair, il resta impassible. Mais Salvatore s'avança vers lui. « Mon père, lui dit-il, sans vous en douter, vous avez sauvé la vie à l'homme qui est devant vous. Et cet homme qui ne vous a jamais vu, qui ne vous a jamais rencontré depuis, vous avouez une profonde reconnaissance. Votre main, mon père. » Le moine tendit sa main au jeune homme, qui, malgré les efforts que fit Dominique pour la retirer, baisa respectueusement cette main. « Maintenant, reprit Salvatore, écoutez-moi, mon père, je ne sais pas si vous aurez un jour besoin de moi, mais sur la chose la plus sainte qui ait jamais existé, sur le corps de l'homme d'honneur qui vient de rendre le dernier soupir, je vous jure que la vie que je vous dois est à vous. » « J'accepte, monsieur, répondit gravement le moine, quoique j'ignore quand et comment j'ai pu vous rendre le service que vous dites. Les hommes sont frères et mis dans ce monde pour s'entraider. Quand j'aurai besoin de vous, j'irai à vous. Votre nom et votre adresse ?» Salvatore alla au secrétaire de Colomban, puis écrivit son nom et son adresse sur un papier qu'il présenta au moine. Le dominicain mit le papier tout plié dans son livre d'heures, se rassit au chevet de Colomban et continua ses prières. Les deux jeunes gens, tour à tour, prirent le rameau de buis trempé d'eau bénite et en aspergèrent le drap qui recouvrait le cadavre de Colomban. Puis tous deux, s'agenouillant au pied du lit, firent mentalement une fervente prière. Pendant qu'ils priaient, entra un homme vêtu d'une livrée indiquant qu'il était domestique dans une riche maison bourgeoise. « Monsieur, dit-il au moine, je crois que c'est vous que je cherche. »« Que voulez-vous, mon ami ?» demanda Dominique. « Mon maître se meurt, monsieur, et comme le curé de Vanvres est absent, il vous fait prier en grâce de venir recevoir sa confession. » « Mais, répondit le moine, je suis étranger à la commune. Ce jeune homme près duquel je dis les prières était mon ami, et c'est sur la lettre qu'il m'a écrite et qui, malheureusement, est arrivée trop tard que je suis venu. » « Monsieur, reprit le domestique, je crois que cette qualité d'étranger est justement ce qui fait désirer à mon maître que vous l'assistiez. Il est bien mal, il est très mal, et Monsieur Pilois, le chirurgien-major, interrogé par lui-même, lui a répondu que s'il voulait prendre ses précautions, il n'avait pas de temps à perdre. » Le moine poussa un soupir et regarda le cadavre immobile dont la forme transparaissait à travers le drap. « Monsieur, continua le domestique, mon maître m'a dit de vous adjurer au nom de Dieu, dont vous êtes le ministre, de venir auprès de moi en toute hâte. » « J'aurais pourtant bien voulu ne pas quitter ce pauvre corps, dit le moine. « Mon père, dit Salvatore, il me semble que vous devez vos consolations aux vivants avant de devoir vos prières aux morts. « Puis, dit Jean-Robert, si vous désirez que quelqu'un de pieux et de sympathique au grand malheur qui vous arrive reste ici, me voilà. » « Monsieur, insista le domestique, que dirais-je à mon maître ? Dites-lui que je vous suis, mon ami. »« Oh, merci ! Qui demanderai-je ? Monsieur Gérard. »« Oh, monsieur, la première personne à qui vous vous informerez vous montrera la maison. Mon pauvre maître est la providence du pays. » « Allez, dit le moine. » Le domestique sortit vivement. « Vous me promettez de rester ici jusqu'à mon retour, monsieur ?» demanda Dominique à Jean-Robert. « Vous me trouverez où vous m'avez quitté, mon père, dit le poète, au pied de ce lit. » « Et si vous aviez quelques recommandations particulières à me faire, dit Salvatore, je tâcherai de vous supplier de mon mieux. « J'accepte votre offre, monsieur. Vous savez que vous m'avez dit que je pouvais disposer de vous. « Faites. » Colomban m'a chargé de veiller à ce que son corps fût déposé près du corps de celle qu'il aimait. La Providence a permis qu'il n'y eût qu'un cadavre au lieu de deux. Je ne puis donc remplir le vœu de mon ami. Il y a plus. Ce cadavre doit être soustrait le plus tôt possible aux yeux de la pauvre Carmélite. J'ai donc décidé qu'aujourd'hui même, à 4 heures, je partirai pour la Bretagne. Il y a un père là-bas, il a droit au corps de son fils et à mes consolations. À 4 heures au bout du village, mon père, le cadavre enfermé dans un cercueil de chêne vous attendra, toute formalité remplie, dans une voiture de poste. Vous n'aurez qu'à prendre votre place près de lui et à partir. Je suis pauvre, dit le moine, et n'ai sur moi qu'une somme à peine suffisante pour mon voyage personnel. Comment pourrais-je ? Ne vous inquiétez pas, mon père, interrompit Salvatore, les frais de voyage seront payés au retour. Le moine s'approcha du lit, souleva le drap, baisa Colomban au front et sortit. 5 minutes après, M. Jacqual entra. Il s'avança vers les deux jeunes gens, s'arc-bouta sur ses jambes écartées, se balança un instant, les mains dans les poches, et puis, s'adressant plus particulièrement à Jean-Robert, « Vous êtes poète ?» demanda-t-il au jeune homme, c'est-à-dire qu'on prétend que je le suis. « En votre qualité de poète, continua l'homme de police, vous croyez à la Providence, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, j'ai le courage d'avouer cela. »« Il vous faut du courage, en effet, dit monsieur Jacqual, en tirant sa tabatière de sa poche et en aspirant avec rage 2 ou 3 pincées de tabac. « Quel propos me dites-vous cela ?»« Tenez, à propos de cette lettre. » Et il tira de sa poche une lettre qu'il montra à Jean-Robert, mais sans la lui donner. Qu'est-ce que cette lettre ? Demanda Jean-Robert. C'est une lettre qui est arrivée hier au soir, dit M. Jacqual, sur laquelle on a eu le soin d'écrire les 2 mots très pressés que le facteur a remis au bout du village à la jardinière Nanette, que la jardinière Nanette a emporté à Paris dans sa poche, et qui, si elle eût été lue hier au soir par ceux à qui elle était adressée, eût fait 2 heureux au lieu de faire 1 mort et 1 désespérée. Lisez. Et il donna la lettre à Jean-Robert. Celui-ci la déplia et lut. « Mon cher Colomban, ma chère Carmélite, n'est-ce pas que vous serez bien content, bien heureux, quand vous verrez arriver cette lettre de votre ami Camille Rosan, au lieu de le voir arriver lui-même ? Je vous entends crier d'ici, « Oh, ce bon, cet excellent Colomban !» Écoutez bien, mes chers, voici ce que m'écrit un de mes compatriotes à qui j'avais, dans le temps, parlé de mes projets de mariage avec vous, Carmélite. « Mon cher Rosan, tes 2 amis vivent comme 2 tourtereaux sans se quitter d'un instant. Non seulement ils s'aiment, mais je dirais plus, ils s'adorent. Je crois que tu les troublerais fort en revenant. Montre-toi donc grand comme Alexandre qui cédait à appel sa maîtresse Campaspe. Je ne te dirai pas « cède à Colomban ta maîtresse Carmélite », mais je dirais « ne désunis pas 2 cœurs que le ciel a créés l'un pour l'autre ». Voici ce que m'écrit mon compatriote, mon cher Colomban. Or, il y a une chose que je savais déjà, mon ami, c'est que tu aimais Carmélite. Il y a une chose que je sais maintenant, c'est que Carmélite t'aime. Et puis enfin, il y en a une 3e que tu m'as dite et que je crois, c'est que tu mourrais plutôt que de trahir le serment que tu m'as fait de veiller sur Carmélite comme une sœur. Je ne veux pas que tu meures, mon pauvre Colomban, et voilà pourquoi je te rends ta parole ainsi que celle de Carmélite. « Sois donc heureux, Colomban, et si ton sacrifice t'a pesé, reçois-en la plus grande récompense que je puisse t'offrir, car c'est au moment de me séparer d'elle à jamais que je sens tout l'amour que j'avais encore pour Carmélite. Aussi, comme j'ai besoin d'éteindre cet amour et de mettre entre mon cœur et le sien une barrière infranchissable, je me suis marié hier au soir, et c'est de la chambre nuptiale que je vous écris ce matin. » Adieu donc, mon cher Colomban, adieu donc, ma chère Carmélite, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, avouant humblement ma faiblesse, je dirais presque ma lâcheté, si je n'étais sûr que cette nouvelle va vous combler de joie tous les 2, et surtout Carmélite, votre ami K. Camille Rosan. « Eh bien, demanda M. Jacqual en reprenant la lettre, que dites-vous de cela, M. Jean Robert ?»«
Je dis que c'est navrant, répondit le jeune homme.
« Et vous croyez toujours à la Providence ?»«
J'y crois. »
« La Providence, Monsieur Jean Robert, » reprit Monsieur Jacqual en bourrant son nez de tabac, « voulez-vous que je vous dise ce que c'est ?»«
Vous me ferez plaisir, attendu que j'y croie de confiance. »«
Eh bien, mon cher monsieur, la Providence, c'est une police bien faite. Allons voir à Versailles si nous retrouverons la fiancée du maître d'école. » Et maintenant, si le lecteur nous faisait par hasard tout haut la question que Jean Robert adressa tout bas à Salvator, au moment où, fidèle à sa promesse, il laissait le commissionnaire de la rue aux Fers et l'homme de la rue de Jérusalem partir pour Versailles, il restait, lui, près du corps de Colomban. Et si par hasard, disons-nous, le lecteur nous demandait comment M. Jacqual pouvait-il à 7h30 du matin être informé des événements arrivés au Bas-Meudon de minuit à 5h du matin, nous répondrions ceci. Il existait à cette époque une spirituelle institution qu'on appelait le cabinet noir. Ce cabinet noir était un endroit où une douzaine d'employés étaient secrètement occupés à décacheter les lettres mises à la poste et à lire ces lettres avant les personnes à qui elles étaient adressées. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabinet noir, la chose se fait au grand soleil. Monsieur Jacqual, en raison des bruits qui couraient sur une triple conspiration, républicaine, orléaniste et napoléonienne, ne dédaignait point, depuis 2 mois, de faire dans ses moments perdus la besogne d'un simple employé. Monsieur Jacqual avait en conséquence passé sa nuit à décacheter et à lire des lettres. La lettre de Colomban à Dominique lui était tombée sous la main. Il était alors 4h30 du matin à peu près. M. Jacqual avait aussitôt fait monter un homme à cheval et lui avait ordonné de courir ventre à terre au Bas-Meudon. M. Jacqual, qui prétendait que la Providence c'était une police bien faite, M. Jacqual espérait que son homme arriverait à temps. Son homme arriva un instant après qu'on eût pénétré dans le pavillon de Colomban et, par conséquent, arriva trop tard. Au milieu du tumulte, on ne fit pas attention à cet agent. Lui vit une lettre adressée à Mademoiselle Regina de Lamotte-Houdan, à Madame Lydie de Marande et à Mademoiselle Fragola Ponroy. Il prit cette lettre et la porta à Monsieur Jacqual. Celui-ci la lut, comme il avait lu la lettre adressée à Dominique, puis il ordonna à son homme de prendre un cheval frais et de reporter la lettre à la place où il l'avait prise. C'était ce que venait de faire le messager de M. Jacqual quand les 2 jeunes gens virent ce dernier parler à un homme vêtu de noir dont le cheval était attaché à la porte d'un cabaret. Ce que M. Jacqual disait tout bas à cet homme, c'est qu'il pouvait aller se coucher et que le préfet de police saurait avec quelle promptitude et quelle intelligence il avait rempli sa mission.